à l'heure dans 10 minutes. Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Jeanne Bartoli. Et
bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, la frontière désormais fermée avec le Rwanda à Goma, la plus grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, où des tirs continuent d'être rapportés dans la ville. Des combattants du groupe armé du M23 et des forces spéciales rwandaises se trouvent dans certains quartiers de Goma. On va faire le point dans un instant. À suivre également, ils ne sont qu'une cinquantaine aujourd'hui à la cérémonie de commémoration de la libération du camp d'Auschwitz. Une cinquantaine de survivants attendus sur le site symbole de la barbarie nazie. 1 million de juifs y ont été exterminés avant la libération du camp il y a 80 ans jour pour jour. Et puis le Proche-Orient, des tensions autour des accords de trêve au Liban mais aussi à Gaza ont conduit à de nouvelles négociations hier, le tout sous le regard de la nouvelle administration américaine et après les propos controversés de Donald Trump qui dit vouloir faire le ménage dans la bande de Gaza. La situation toujours confuse à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des tirs sont rapportés depuis ce matin dans la ville. Selon nos informations, des combattants du groupe armé du M23 et des forces spéciales rwandaises se trouvent dans certains quartiers de Goma, notamment au nord de la ville, vers l'aéroport. Les forces congolaises et leurs alliés sont encore présents à Goma, mais situation toujours confuse. De nombreux habitants sont actuellement terrés chez eux. Des pillages nous sont rapportés. On apprend également que la frontière avec le Rwanda à Goma a été fermée. Pour l'instant, pas de communication officielle ce matin de la part des autorités congolaises. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a fait l'objet hier d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour la première fois, le Rwanda a été directement critiqué pour son soutien au groupe armé du M23. Récit à New York, Luna Naki.
De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour.
Devant les membres du Conseil de sécurité, la chef de la diplomatie congolaise accuse Kigali en évoquant les combats qui font rage depuis ce week-end au nord de Goma.
C'est une agression frontale, une déclaration de guerre. Le Rwanda persiste dans la terreur et le pillage.
Pointer du doigt le Rwanda, c'est aussi ce qu'a fait Antonio Guterres. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU a pour la toute première fois clairement appelé Kigali à retirer ses troupes du sol congolais. Un appel réitéré par plusieurs membres du Conseil de sécurité comme la France et les États-Unis.
Le recours du Rwanda à des systèmes et des armes lourdes entrave les opérations humanitaires, met en danger la MONUSCO ainsi que les civils qui fuient ces violences. Cela doit cesser.
La présence en République démocratique du Congo d'une force militaire étrangère est une violation claire de la Charte des Nations Unies.
Le représentant du Royaume-Uni a même évoqué la possibilité de sanctions. Rares sont ceux, comme la Chine et la Russie, qui n'ont pas accusé directement le Rwanda. La réunion du Conseil de sécurité s'est achevée sans annonce, mais certains membres, comme la France, disent travailler sur une déclaration officielle pour afficher une position plus claire vis-à-vis du Rwanda. Lubna Naki, New York, RFI.
Et vous suivez la situation dans l'est de la RDC sur notre antenne et également sur notre site internet rfi.fr. Toujours concernant la situation en RDC, le président kényan William Ruto a lui annoncé hier la tenue d'un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Dans les 48 heures, les présidents congolais et rwandais sont conviés. En Pologne, à présent, les commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz ont débuté en présence d'une cinquantaine de survivants et de nombreuses délégations officielles. À l'instant, Emmanuel Macron appelle à ne rien céder face à l'antisémitisme au nom de l'universalisme de la France. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé un peu avant le monde à empêcher le mal de gagner. La mémoire de l'Holocauste s'affaiblit progressivement. Nous ne devons pas permettre l'oubli, a déclaré Volodymyr Zelensky. Le 27 janvier 1945, c'est l'armée soviétique qui avait ouvert les portes d'Auschwitz, y découvrant seulement 7000 survivants, très malades pour la plupart, Auschwitz, où 1 million de juifs ont été exterminés. Terminé, invité d'RFI ce matin, Ginette Kolinka, déportée à l'âge de 19 ans, rescapée de la Shoah. Elle raconte son arrivée dans le camp de la mort en 1944.
J'avais vraiment pas peur. J'allais dans un camp de travail Et un camp de travail, pour moi, c'était un travail dur, travailler dans les champs ou travailler en usine. Donc, j'avais absolument pas peur.
Et quand est-ce que vous comprenez que ça n'est pas un camp de travail comme un autre?
Ah ben ça, tout de suite. Hein. Tout de suite, on commence à vous bousculer très fort. Et puis quand on marche pour aller jusque dans le camp, moi, pour moi, c'était mon usine. Je voyais de la fumée, des cheminées, c'était mon usine.
Oui.
C'est dans le camp qu'on apprend que l'usine, c'était l'usine de la mort. Mais quand je suis dans le camp, ce qui est la surprise, c'est de voir tout ce nombre de baraques à perte de vue. Vous avez des baraques. Ça devait être une drôle d'entreprise pour employer toutes ces personnes.
Ginette Colinca au micro d'Arnaud Pontus. Vous pouvez réécouter d'ores et déjà l'entretien sur RFI.fr. À Gaza, des milliers de Palestiniens sont en route ce matin vers le nord de la bande de Gaza. Des images montrent une foule dense cheminant à pied sur la route côtière de l'enclave palestinienne. Ce retour de la population vers le nord totalement dévasté par la guerre est donc enclenché, mais avec du retard puisqu'Israël avait refusé d'ouvrir cet accès, estimant que le Hamas aurait dû libérer une otage civile samedi dernier, en plus des 4 soldats qui ont été libérés. Finalement, un accord est intervenu hier. 3 otages israéliennes, dont Arbel Yehoud, dont le sort faisait l'objet de tensions, seront libérés ce jeudi. Une avancée diplomatique qui intervient après les propos chocs tenus hier par Donald Trump, le président américain qui a dit vouloir faire du ménage dans la bande de Gaza. Il a proposé de déplacer les Palestiniens de Gaza vers la Jordanie et l'Égypte. Alors comment réagit-on au sein de la population égyptienne? Reportage d'Alice Moreno.
Déplacer la souffrance des Palestiniens ne se fera pas sans conséquences. C'est en tout cas la crainte de Fadel.
Il y aura des problèmes dans le Sinaï, car chacun sera à nouveau en concurrence pour la terre. Et ça créera juste un nouveau problème entre les Palestiniens et les Égyptiens du Sinaï.
Gamal, lui, a 71 ans. Cela fait des décennies qu'il constate impuissant la réduction des territoires palestiniens.
Je refuse que les Palestiniens soient forcés de quitter leurs terres. Le peuple de Gaza est opprimé.
Il voit dans les propos du président américain une manœuvre pour permettre à Israël d'étendre son territoire.
Les propos de Trump sont complètement déraisonnables parce que Trump est fou. Les États-Unis, comme la France, veulent qu'Israël soit ici pour ses intérêts dans le monde. Et la France aussi.
Une de ses nièces, Amani, redoute qu'Israël ait ensuite des vues sur le Sinaï.
Le peuple égyptien, nous sommes tous d'accord. S'il y a une seule chose contre notre armée, notre pays, notre terre, non. Nous nous lèverons, nous n'avons pas peur.
Les Égyptiens espèrent donc que le président Abdel Fattah al-Sissi tiendra la ligne qui est la sienne depuis le début, évitera à tout prix un afflux massif des Gazaouis vers l'Égypte. Alice Moreno, Le Caire, RFI.
En Espagne, à présent, près de 3 mois après les inondations meurtrières dans la région de Valence qui ont fait 224 morts, les familles des victimes s'organisent et préparent des plaintes contre les représentants des administrations publiques. Hier, elles se sont réunies avec leur avocat. Correspondance Élise Gazangel.
3 mois après les inondations, la colère n'est pas retombée à Valence, mais elle a uni près de 200 proches de victimes dans une association qui réclame justice. Rosa María Álvarez a perdu son père, Manuel.
Depuis le début, je pense que mon père n'est pas mort naturellement. Je dis toujours, il n'est pas mort, on l'a tué. Et comme pour chaque homicide, il faut réclamer justice.
Une plainte pour homicide involontaire va donc être déposée contre notamment Carlos Mazón, le président de la région de Valence. Sonia Fuster, dont le père Ernesto est mort, explique.
Quand l'urgence a été activée, il n'était pas là, il est parti à un repas. Il a manqué les heures décisives et critiques de prise de décision.
Une procédure qui risque d'être longue et laborieuse, mais nécessaire pour Encarna Martinez, dont le frère José a été emporté.
Ça sera très difficile, mais au moins je mourrai en me disant que j'ai essayé de faire quelque chose, que j'ai avancé et j'irai le plus loin possible.
Dans la région, 224 corps ont été retrouvés et 3 sont toujours disparus. Élise Gazangel, Alpha Phare, RFI.
10h10 à Paris et dans la région de Valence. Et tout de suite, c'est Caroline Paré pour Priorité Santé.
Merci beaucoup, Jeanne Bartoli.